שיוזם ישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous sommes dans Parashat Miketz et nous allons à présent, Be'ezrat Hashem, essayer de comprendre la problématique qu'il y a dans les rêves de Pharaon. Voilà que dans, au début du Pasuk, le premier Pasuk de Miketz, il est dit « Vaihi Miketz shenataim yamim ou paran cholem » et ce fut au bout de 2 ans et Pharaon rêve, fait un rêve. « Veine » et voici, en Med Alayor, voici qu'il est, il se voit lui-même, il est sur le fleuve. Et là, Vine Minayor, il est dit qu'il voit apparaître, Sheva Parot, Yefot Mare, donc sort du fleuve, il voit apparaître du fleuve surgir des eaux, 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres, et les unes disparaissent dans les autres. Les vaches grasses disparaissent, sont avalées par les vaches grosses, par les vaches maigres. Et là, il se réveille. Et il dort à nouveau. Vaishan vaikats paro. Vaishan vayahalom shenit. Mais il rêve à nouveau. Et là, il voit la vision des épis. Et donc, c'est pratiquement la même vision, une fois avec des vaches, une fois avec des épis. Et à la fin, il est dit, Vaikats Parao Veine Halom. Donc, Pharaon, la deuxième fois, s'est réveillé. Et il comprend que c'est un rêve. Veine Halom. Voici un rêve. Donc, et quand le Pasuk dit Veine Halom, est-ce que cela signifie qu'il a fait un deuxième rêve? C'est un nouveau rêve? Ou bien, il prend conscience que les deux visions qu'il a eues, donc il a rêvé à 2 reprises et à chaque fois il s'est réveillé, après le premier rêve il s'est réveillé et après le second aussi il s'est réveillé. Et quand il est dit ici, Veine Halom, ça pourrait signifier que Pharaon sait pertinemment, comprend, ressent à l'intuition que les deux rêves n'en font qu'un. Mais cependant, donc il s'est réveillé, il ne faisait pas encore jour. Donc il est réveillé sur son lit. Vayi baboker, et ce fut au matin, pati paem rucho. Là, au matin, il est dit qu'il était tourmenté. Son esprit était tourmenté. Et c'est au matin qu'il convoque tous ces sages, les hartumim, etc., et tous les chachamim, pour leur raconter le rêve et qu'eux puissent lui expliquer. Et là, il est dit, vayi saper parolaem et halomo, donc Pharaon leur raconta son rêve. Et il n'y avait personne qui pouvait les expliquer à Pharaon. C'est-à-dire que lui, il raconte un rêve et eux lui expliquent 2 rêves. Et c'est ça la difficulté qu'il y a Donc Pharaon, à cause de ça, n'accepte pas leur explication. Ça ne le tranquillise pas et ça ne le satisfait pas. Donc il voit, il comprend, il ressent que les interprétations qu'on lui donne ne sont pas correctes. C'est-à-dire que les interprétations ne correspondent pas à ce que lui-même a vu. Quand plus tard, il raconte le rêve à Yosef, parce que nous ne savons pas, le texte ne dit pas de quelle manière Pharaon a raconté le rêve au Chachamim, au Chartoumim. Mais le Pharaon raconte le rêve à Yosef. Alors certainement que de la manière dont il a de raconter à Yosef, c'est ainsi qu'il a raconté aux autres. Alors que dit-il? Alors il dit, Vine, alors il dit, Vaidaber paro à Yosef. Alors Pharaon dit à Yosef, raconte à Yosef, Bahalomi, dans mon rêve, Ineni Omed al Sefatayor. Voici, je me tiens sur la berge du fleuve. Et là, c'est là toute la problématique donc Pharaon, en fait, il a changé. Il ne raconte pas ce qu'il a vu. Parce que dans le rêve, il se voit sur le fleuve. Et là, il change. Au lieu de dire qu'il est sur le fleuve, il dit qu'il est sur la berge du fleuve. Il y a une différence fondamentale entre les deux visions. Est-ce que Pharaon influe sur le fleuve? Ou un pharaon, quand il est pharaon sur son fleuve, c'est-à-dire que c'est le fleuve est à son service. Le fleuve étant la source de bénédiction de l'Égypte, c'est du fleuve que sort toute la prospérité. L'Égypte doit sa prospérité, sa puissance, son développement, sa subsistance au fleuve. Alors, si Pharaon il est sur le fleuve, alors il se tient sur le conduit qu'il procure sur le bassin d'abondance qui correspond à l'Égypte. Mais si il est sur la berge, alors là, il est celui qui reçoit les bénédictions du fleuve, celui qui il n'est que le récipiendaire, donc il n'influe pas, il est d'une situation passive de receveur. Et c'est ça la différence qu'il y a entre la vision de réel qu'il voit et la narration qu'il en fait. Donc il a changé, ça c'est une des nuances, un des changements que Pharaon fait quand il raconte son rêve. Et c'est ça certainement qui a amené les Khartoumim à traduire et à commenter les rêves en étant deux rêves distincts. Et non seulement ça, ils vont commenter les rêves de Pharaon comme si il s'agissait d'un individu du commun, comme un simple individu, et non pas en tant que Pharaon. Et c'est cette idée que Yosef va déceler, c'est cette erreur que Yosef va éviter. Et c'est pour cela que Yosef, quand il va traduire les rêves, il va dire que ce que est à Elohim, c'est que ce que l'Éternel fait, il l'a dévoilé à Pharaon. Non pas en tant qu'individu, mais en tant que Pharaon, chef de roi et dirigeant du plus grand pays de cette époque. Donc, et ça va impacter non seulement la nation égyptienne, mais l'ensemble du monde antique. Et c'est ça l'idée. Et ça, Yosef le décèle dans la manière que Pharaon a de raconter son rêve. Et Yosef n'accepte pas parce que Pharaon certainement ne veut pas se placer au-dessus. Et c'est comme si qu'il a une marque. Il est gêné de se voir sur le fleuve parce qu'il sait sa faiblesse. Mais donc alors il veut en marque de modestie, dire qu'il est sur la berge. Mais Yosef comprend pertinemment, de manière absolue, il entend le rêve et comprend qu'il ne s'agit pas d'un rêve, d'un détail, mais de quelque chose de fondamental, que Pharaon se tient sur le fleuve. Et en tant que Pharaon, c'est en tant que Pharaon qui détient entre ses mains la destinée de son peuple, qu'il voit ce rêve-là. Et c'est ça qui va lui permettre de traduire le rêve comme étant un seul rêve. Et non seulement ça, mais après il va aller au-delà dans son explication, parce que Pharaon va faire encore des nuances, va encore faire des changements entre le texte qui est raconté au début le rêve qui est mentionné dans la Torah, au début de la paracha, et la narration qu'en fait Pharaon à Yosef. Il y a de nombreuses nuances, de nombreux changements. Et Yosef ne tombe pas dans, n'en tient pas compte, comprend que Pharaon a changé. Et que, essentiellement, il comprend le sens même du rêve. Et c'est cela qu'il va transmettre à Pharaon. Et il va aller au-delà de ça, comme nous allons le voir. L'autre point qui convient de souligner, c'est que, comme nous l'avons dit, il s'est réveillé à la fin du deuxième rêve. Il s'est réveillé, veiné halom, vaikat pharaon veiné halom, et ce n'est pas encore le matin. Et plus loin, le verset suivant nous dit, vaï baboker vatipaim ucho. Donc il a été tourmenté au matin. Pourquoi avoir attendu jusqu'au lever du jour, le matin, pour être tourmenté? Pourquoi il n'était pas tourmenté? C'est-à-dire que le tourment, l'inquiétude qu'il envahit, et le doute, et il n'est plus tranquille à cause de ses rêves, c'est au matin et pas juste après avoir rêvé. parce qu'il ne se rendort, le pasouk dit qu'il ne se rendort pas. Alors pourquoi au matin? Alors pour comprendre cela, il y a aussi un point très important qu'il faut souligner, c'est que à la fin de l'interprétation du rêve, Yosef va au-delà de ce qu'on lui a demandé. Donc il interprète le rêve, il dit voilà, cette année de famine, cette année d'abondance extraordinaire, puis cette année de famine, et combien même l'abondance a été extraordinaire, la famine, cette année de famine vont totalement faire oublier, effacer, ce sera une famine terrible. Donc même l'abondance qui était le surplus, etc., d'abondance, sera totalement oublié, comme si que ça n'avait jamais existé. Alors il lui donne le conseil, et il lui dit que Pharaon choisisse un homme capable de faire des réserves de telle sorte qu'il soit et qu'il choisisse un homme intelligent, capable de sagesse, Vishitou Aleres Misraim, qui le place, qui gouverne le pays d'Égypte, et de telle sorte qu'il arrive à faire des réserves pour pouvoir subvenir aux besoins du peuple pendant les années de famine. Donc en fait, il va au-delà de ce que Pharaon lui dit, il donne des conseils à Pharaon, alors que sa fonction, on l'a appelé juste pour commenter pour expliquer le rêve. Pourquoi va-t-il au-delà de ce que on lui a demandé? Alors là, il est dit qu'après que Yosef donne les conseils, il dit Vaïta va devoir bene paro, bene kolabadab. Donc si les paroles de Yosef ont été acceptées, il se trouver les paroles judicieuses et intelligentes. Et Pharaon dit Vayomer Pharaon et l'abadab, animsa kazé. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un de cette qualité-là, comme celui-là? Ish, Asheruach Elohimbo. Un homme dont la parole, c'est la parole des gens. C'est prophétique ce qu'il dit. C'est une intelligence lumineuse. Après cela, Pharaon va nommer Yosef. C'est à Yosef qu'il va confier la mission de préparer les années de famine. Alors, comment cela se fait-il que Pharaon a accepté le conseiller, et pourquoi le nomme-t-il? Alors, pour comprendre ça, regardons ce que nous disent les Chachamim dans la Gemara. Les Chachamim disent qu'il y a trois sortes de rêves qui se réalisent. Quand on rêve, il y a des signes qui sont manifestes que le rêve va se réaliser. Alors, quels sont-ils? Alors, les Chachamim disent le rêve qui se répète quand on rêve deux fois la même chose, deux ou trois fois la même chose. Celui que l'on fait au petit matin et celui que l'on rêve sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire celui qui fait un rêve qui concerne quelqu'un d'autre. Ça, c'est la Gemara dans Brachot, à la page 55. Alors ici, il est dit, Pharaon rêve, alors rêve deux fois. Bon, donc il sait que c'est le même rêve qui se répète. Donc il y a un premier point qui se réalise. Le deuxième point, c'est qu'il se rêve au matin. Le deuxième rêve se fait presque au matin, juste avant le matin. Donc il ne fait pas encore jour, mais c'est pas loin du matin. Et il ne se rendort pas. Preuve en est, c'est qu'il ne se rendort pas. Mais au matin, quand le matin se lève, arrive, alors Pharaon est soucieux. Pourquoi est-il soucieux? Parce qu'il cherche. Et au matin, il est soucieux, il est tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il cherche le troisième point. Lui, il a fait un rêve, mais il concerne quelqu'un d'autre. Mais quel est ce quelqu'un d'autre? De qui s'agit-il? Il ne le voit pas dans le rêve. Pour que son rêve se réalise, il faut que son rêve concerne une tierce personne. Et ça, il ne le sait pas, il ne le voit pas, il n'arrive pas à le découvrir. C'est pour ça qu'au matin, il, après réflexion, avoir revu son rêve dans tous les sens, il ne trouve pas de qui il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'il est tourmenté. Et c'est donc ce troisième point, il cherche la tierce. Alors comment le rêve concerne quelqu'un d'autre à part lui? Et donc il cherche cette idée. Il cherche à dévoiler cela. Et c'est par rapport à ce point précis qu'ils convoquent les sages et les sorciers. Et quand eux lui donnent leur interprétation, dans l'interprétation qu'ils donnent, le rêve ne concerne que Pharaon. Donc il reste insatisfait, parce que lui-même sait qu'il s'agit d'un même rêve, et il est facile de l'interpréter, il est facile, relativement facile, de comprendre le sens du rêve, mais où est la troisième personne? Donc il les repousse. Donc l'explication donnée par les sages de Pharaon ne le satisfait pas. Alors on comprend immédiatement que quand Yosef explique les rêves, il va donner la solution, il va satisfaire Pharaon par rapport à ce troisième point. Il ne s'agit pas seulement pour Yosef de commenter les rêves, d'interpréter les rêves. Cette année d'abondance, cette année de famine, le rêve se répète, etc. Il s'agit aussi de désigner quelle est la tierce personne. Pharaon n'a pas rêvé de lui, mais il a rêvé de quelqu'un d'autre. Et de qui il a rêvé? De celui qui est capable de solutionner si il voit. Si Akadosh Baruch Hu lui dévoile dans son rêve ce qui va se passer, il faut trouver le sens profond du rêve. C'est pas de savoir ce qui va se passer, c'est d'y remédier. Donc il s'agit de quelqu'un qui est capable d'y remédier. Et c'est seulement celui qui a percé l'énigme du rêve qui peut à ce moment-là comprendre et qui comprend le sens véritable du rêve, qui peut trouver la solution. Et quand Yosef invite Pharaon à chercher ce personnage, celui qui va pouvoir trouver la solution à la catastrophe qui risque d'arriver pendant les années de famine. Immédiatement, il voit que c'est le rêve est vrai parce que il a rêvé en fait, le rêve concerne Yosef. Donc il s'agit de la solution est trouvée. Le troisième point qui le tourmentait, il l'a enfin trouvé. Et comment Yosef a percé ça? Il dit, c'est ça ce qu'il est dit. Il dit, c'est Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, nous avons posé la question. Pharaon, dans son rêve, il se voit sur le fleuve. Quand il raconte le rêve, il se voit sur la berge du fleuve. Donc il y a ici un changement. On peut expliquer le changement, comme nous l'avons dit, qu'une marque de modestie. Comment c'est possible de voir un rêve? Si le rêve est un vrai rêve, une vraie vision, alors on peut pas voir quelque chose de négatif ou de faux ou d'impossible dans le rêve. Donc Pharaon, se plaçant au-dessus, se voyant au-dessus du fleuve, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc il va traduire cela comme étant sur la berge. Mais Yosef comprend que le rêve concerne la nation égyptienne, non pas Pharaon en tant que monsieur Pharaon, qu'individu, mais en tant que celui qui détient le pouvoir et la destinée de son peuple. Alors pourquoi Pharaon? Alors il comprend que Pharaon a certainement vu dans sa vision que lui-même était placé sur le fleuve. Parce que Pharaon, le fleuve étant le truchement par lequel l'abondance arrive, mais tout dépend, en vérité, il y a deux pharaons, comme nous voyons, lors de la sortie, lors de la traversée de la mer, que le roi Pharaon, ils ont vu Mitzrayim, Nosea Harem, ils ont vu dans les cieux l'archange de l'Égypte. Ils ont vu l'archange de l'Égypte dans les cieux. Et il avait la même apparence que Pharaon. Donc quand il se voit sur le fleuve, il ne s'agit pas de lui-même, il s'agit de son archange, qui a la même posture, la même apparence que lui. Ce qui signifie que le rêve concerne la nation égyptienne. Quand il raconte, il est sur la berge, donc il est receveur, il est en attente de recevoir. Ça signifie que lui-même, qu'il y a une autre personne qui va lui apporter la solution. C'est comme si il se voit, il raconte son rêve en disant qu'il se trouve sur la berge, parce que lui-même n'arrive pas à véritablement comprendre l'énigme qu'il y a. Il n'arrive pas à solutionner son rêve, en trouver la solution. Trouver la solution non pas de commenter le rêve, mais de trouver la solution au problème qui se pose à lui. Donc il est en attente. Et c'est ça le sens quand il dit qu'il est sur la berge. Et c'est ça que Yosef décèle, comprend. Il arrive à comprendre ces nuances. C'est pour ça qu'il lui dit, il s'agit de placer quelqu'un. Toi, Pharaon, tu es en attente de solution. Donc, il y a quelqu'un qui va t'apporter la solution. Donc, le rêve, tu l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour l'autre. L'essentiel du rêve, c'est de trouver l'autre personne, la tierce personne qui va te donner satisfaction et qui va utiliser le message de ce rêve pour solutionner la problématique qui se pose. Et c'est pour ça que immédiatement Yosef lui donne ce conseil. Yere Pharao ish navon bechacham bishitu aleres Mitzrayim. Il va nommer hein, quelqu'un qui va lui donner carte blanche pour diriger l'Égypte de telle sorte qu'il puisse sauver la population et l'Égypte lors de la famine. Et c'est cela que et Pharaon dit à sa cour, il dit, est-ce qu'il y a un homme aussi intelligent que lui qui sait interpréter? Et tout ce qu'il dit, c'est la parole divine qui parle de sa bouche. C'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.